VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 19 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Burkina Faso, le parti de Blaise Compaoré promet de revenir au pouvoir par les urnes lors de la présidentielle de dimanche. La situation reste tendue à Kampala après la mort de 7 personnes dans des manifestations contre l'arrestation de Bobi Wine, candidat à la présidentielle. L'armée éthiopienne accuse le directeur de l'OMS, Tedros, originaire du Tigré, de soutenir cette région dissidente. Mike Pompeo a effectué la première visite d'un chef de la diplomatie américaine dans une colonie israélienne en Cisjordanie. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Au Burkina Faso, lors d'un meeting à Ouagadougou, Eddie Kombouago, candidat à la présidentielle du 22 novembre, a promis que son parti, celui de l'ancien président Blaise Compaoré, reviendrait au pouvoir par les urnes après avoir été chassé par la rue. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous avons perdu le pouvoir par la rue, nous sommes revenus pour reconquérir le pouvoir par les urnes, a déclaré Eddie Kombouago, candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès. Blaise Compaoré, au pouvoir pendant 27 ans, a été chassé en 2014 par une insurrection populaire. À l'époque, des dizaines de milliers de Burkinabés ont pris la rue, surtout la symbolique place de la nation à Ouagadougou, pour empêcher le président Compaoré de modifier la constitution et se maintenir au pouvoir. Il a fui en Côte d'Ivoire où il vit toujours en exil. Sur cette même place de la nation, M. Kombouago, expert comptable de formation, a fustigé l'insurrection composée, selon lui, de jeunes savamment manipulés. Pour sa campagne, Eddie Kombouago a pu compter sur la machine rodée du CDP qui avait été interdit de scrutin présidentiel en 2015. Les posters de Blaise Compaoré ornaient autant d'affiches que le candidat Kombouago au meeting de ce jeudi. Environ 6,5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes dimanche, pour la présidentielle couplée aux législatives.
En Ouganda, des heurts déclenchés par l'arrestation de Bobi Wine, candidat à la présidentielle de 2021, ont entraîné la mort d'au moins 7 personnes mercredi à Kampala, où la situation reste tendue. Le point avec John Lyndon.
La campagne bat son plein avant le scrutin présidentiel qui s'annonce difficile le 14 janvier. Hier, la police a affronté pendant plusieurs heures à Kampala de jeunes manifestants en colère suite à l'arrestation de leur champion, Bobi Wine. Nous avons dénombré 7 morts jusqu'à tard hier soir. Il y a 45 blessés, a déclaré ce jeudi le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a été arrêté à Jinja dans l'est du pays au premier jour de sa campagne pour avoir, selon la police, violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ses rassemblements. Il y a eu des heurts dans cette ville et d'autres centres urbains. La situation est restée tendue à Kampala où la présence policière et militaire est forte. Des rassemblements sporadiques continuaient avant d'être dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Mercredi soir, l'ambassade américaine à Kampala a sur Twitter déploré les violences et appelé toutes les parties à renoncer à la violence. Bobi Wine, 38 ans, député de l'opposition et star de la chanson, sera le principal adversaire du président sortant Yoweri Museveni. Bobi Wine, très populaire parmi la jeunesse urbaine, il a déjà été arrêté ou assigné à résidence plusieurs fois depuis 2018.
L'armée éthiopienne a accusé le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, originaire du Tigré, de soutenir cette région dissidente. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le chef d'état-major de l'armée fédérale éthiopienne, M. Tedros a œuvré dans les pays voisins à condamner la guerre que mène le gouvernement éthiopien aux autorités régionales du Tigré depuis le 4 novembre. Le général Berhamou Jula l'accuse d'œuvrer pour leur obtenir des armes. Le directeur de l'OMS n'a négligé aucune piste pour aider le Front de libération du peuple du Tigré, a ajouté le chef de l'armée lors d'une conférence de presse. L'OMS à Genève n'a pas souhaité faire de commentaires dans l'immédiat et M. Tedros n'a pas encore réagi à ces accusations jeudi. Âgé de 55 ans, M. Tedros, spécialiste en immunologie et maladies infectieuses, est depuis 2017 le premier Africain à diriger l'Organisation mondiale de la santé.
La police tanzanienne a déclaré ce jeudi qu'elle avait arrêté un nombre indéterminé de personnes soupçonnées de projeter de rejoindre des militants islamistes au Mozambique voisin. L'insurrection islamiste qui fait rage dans le nord du Mozambique s'est répandue au-delà de la frontière pour la première fois en octobre dernier, lorsque environ 300 militants ont attaqué un village du sud de la Tanzanie. Lors d'un point de presse, le chef de la police, Simon Siro, a déclaré que des personnes venant notamment de Kigoma et de Mwanza avaient été arrêtées. En dépit d'un accord de cessez-le-feu en octobre en Libye et de discussions en cours entre les belligérants, les deux parties n'ont toujours pas commencé un retrait de leurs forces, a déclaré l'émissaire de l'ONU par intérim, Stephanie Williams, devant le Conseil de sécurité. L'accord du 23 octobre prévoit le retrait de toutes les unités militaires et groupes armés des lignes de front et le départ de tous les mercenaires et combattants étrangers du territoire libyen dans un délai de 90 jours. Les opérations de réinstallation de réfugiés dans des pays tiers devraient atteindre cette année l'un des niveaux les plus bas en raison de la pandémie de Covid-19, a alerté l'ONU, évoquant notamment la suspension de l'évacuation des réfugiés depuis la Libye et des centaines de personnes qui avaient précédemment été évacuées vers des centres de transit au Niger et au Rwanda et attendent de partir vers des pays de réinstallation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Finalisation du recomptage des voix de la présidentielle américaine du 3 novembre dans l'État de Géorgie. Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 millions de voix lors du scrutin contre environ 74 millions pour Donald Trump. En Géorgie, le dépouillement donne à Biden 14 000 voix d'avance, un écart serré obligeant un recomptage à la main. Les autorités locales devaient rendre publiques les conclusions de ce recomptage ce jeudi. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a visité ce jeudi la ville de Psagot, une colonie juive de Cisjordanie. C'est une première pour un secrétaire d'État américain. Les détails avec Mouamadou Oumfa.
Mike Pompeo a effectué la première visite d'un chef de la diplomatie américaine dans une colonie israélienne en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967. Dans le vignoble de Psagot, près de la ville palestinienne de Ramallah, il a annoncé que Washington allait labelliser les exportations israéliennes de Cisjordanie comme provenant directement d'Israël. Mike Pompeo a indiqué que la campagne de boycott des produits de l'État hébreu était jugée antisémite par les États-Unis, ajoutant « Nous allons prendre des mesures immédiates pour identifier les organisations impliquées dans cette campagne et leur retirer le soutien américain », des propos aussitôt fustigés par les organisations de défense des droits de l'homme. Les Palestiniens ont condamné cette visite. Elle ne permettra pas de légitimer les colonies israéliennes qui disparaîtront tôt ou tard, a affirmé Abu Rudena, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, dans un communiqué.
Covid-19, le seuil des 250 000 morts a été franchi aux États-Unis. Forte progression des décès en Europe également. En Asie, le Japon est en alerte maximale. Par ailleurs, l'Iran, la Jordanie et le Maroc concentrent plus de 60% des cas de Covid-19 recensés la semaine passée dans la région, selon le bureau de l'OMS au Caire. Au Maroc, le roi Mohamed VI a annoncé une opération massive de vaccination dans les prochaines semaines. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un investissement dans la défense d'un montant sans égal depuis 30 ans. Ces dépenses représentent une augmentation de 10% par rapport au budget actuel de près de 45 milliards d'euros. L'annonce intervient à un moment décisif pour le Royaume-Uni, l'issue des négociations avec l'Union européenne pour tenter de conclure un accord de libre-échange. Le géant américain Google a annoncé la signature d'accords avec plusieurs éditeurs de presse en France, dont Le Monde, Courrier International, Le Figaro et Libération, dans le cadre de négociations sur les droits voisins. Ces mesures prévoient une rémunération pour les contenus de la presse utilisés par les plateformes en ligne. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a mobilisé 3,8 milliards d'euros lors de la table ronde avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux tenus à Paris les 17 et 18 novembre 2020. Ces fonds devraient servir à la réalisation de 11 projets dits intégrateurs dans les 6 pays membres de la CEMAC sur la période 2021-2025. En RDC, le prix du cuivre est monté à un peu plus de 7 000 $ la tonne, tandis que celui du cobalt est en légère baisse sur le marché international. Selon les données de la Banque centrale du Congo, la production du cuivre a augmenté de presque 16% pour atteindre 1 308 millions de dollars en décembre 2019. La RDC est le premier producteur de cuivre d'Afrique et le leader mondial pour le cobalt dont le prix a chuté en 2019 jusqu'à 30 000 $ la tonne. La croissance économique de la Côte d'Ivoire, selon le Conseil des ministres tenu mercredi, pourrait rebondir à 6,5% contre 1,8% en 2020. Initialement prévu pour s'établir à 7,20%, le taux de croissance a reculé jusqu'à 1,8% avec une perte de 500 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Les dépenses liées au COVID-19 ont coûté plus de 107 milliards de francs CFA à l'État ivoirien.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Nous commençons ici aux États-Unis avec du basketball. Les Minnesota Timberwolves ont choisi l'arrière Anthony Edwards en première position de la draft de la NBA qui a eu lieu la nuit dernière pour la première fois en visioconférence. Issu de l'Université de Géorgie, ce joueur athlétique 1m98 intégrera une équipe qui possède déjà un noyau de jeunes stars avec le pivot Karl Anthony Towns et l'arrière D'Angelo Russell. Les Golden State Warriors ont choisi en deuxième position l'intérieur James Wiseman et les Charlotte Hornets ont opté pour l'autre meneur LaMelo Ball. Ces jeunes joueurs et les 53 autres sélectionnés ont un mois pour s'adapter à un nouvel environnement professionnel, intégrer un collectif avant le coup d'envoi de la saison le 22 décembre. Côté africain, 8 joueurs d'origine nigériane ont été sélectionnés pour cette draft 2020. Football en Égypte, Essam El Adari a confirmé sa retraite des pelouses. L'ancien international égyptien ne foulera plus le terrain en tant que gardien de but. En effet, malgré l'annonce de sa retraite en 2019, El Adari avait plusieurs fois été annoncé dans plusieurs clubs, dont Zaïd FC, une équipe de 4e division égyptienne. Je ne rejoindrai aucun club et toutes ces rumeurs sont complètement fausses. J'ai suivi de nombreux cours en Europe et des périodes d'essai avec des équipes de classe mondiale. Et maintenant, grâce à vos soutiens, je suis prêt à démarrer ma carrière d'entraîneur, a expliqué El Adari sur son compte Twitter. Et Sam El Adari a mis fin à sa retraite de footballeur à Nogom FC en 2019. En Angleterre, Pep Guardiola a prolongé de 2 saisons son contrat avec Manchester City, a annoncé le club avec lequel il est désormais lié jusqu'en 2023. Arrivé à Man City en 2016, l'ancien Barcelonais de 49 ans, dont le contrat se termina l'été prochain,
a remporté 2 titres de champion, 1 coupe d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue, mais jamais la Ligue des champions, objectif majeur des Citizens. L'équipe a remporté 181 des 245 matchs disputés sous ses ordres, un taux de succès de 73,87%, a précisé le club qui souligne qu'il a transformé le jeu de l'équipe avec une philosophie générale très inspirée du Barça où il a joué 9 ans et qu'il a entraîné pendant 4 ans. La sélection de l'Uruguay a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19 qui s'ajoutent aux 4 précédents dont celui de son buteur Luis Suarez, a annoncé la Fédération de football, les joueurs Alexis Rolin et Diogo Rossi, ainsi que 5 officiels dont le médecin de l'équipe Alberto Pan, ont été contrôlés positifs au coronavirus selon des prélèvements effectués après la défaite mardi contre le Brésil 2-0 dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Les électeurs burkinabés se préparent aux élections de dimanche. Le Burkina Faso va choisir son président et renouveler les députés élus il y a 5 ans lors d'un scrutin couplé le 22 novembre. 15 communes ne pourront pas participer à ces élections à cause de l'insécurité. Le point sur la situation avec notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
De 22 communes au départ, elles seront finalement 15 qui ne participeront pas aux élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Elles n'ont pas pu participer à l'enrôlement biométrique des électeurs organisé en août dernier par la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Parmi ces localités, il y a celle de Nassombo et Tongomael dans la région du Sahel, Kanyi au nord, Logobo à l'est, Gombori dans la boucle du Moun, toutes des zones qui ont été fortement touchées par les attaques terroristes.
Il y a une quinzaine de provinces au Burkina Faso qui ne sont pas concernées, ce qui représente environ 17,70% du territoire national selon le Conseil constitutionnel.
Paul Mickey Rwamba, journaliste à la radio Ouara FM.
Il faut dire déjà que les élections législatives, la circonscription électorale étant la province, cela voudrait dire simplement que les provinces qui sont concernés par cette situation d'insécurité, il y aura quand même certaines communes, certaines parties de la province qui vont participer au vote. Donc on aura quelques votes que l'on va enregistrer à l'échelle de la province et les résultats seront extrapolés sur l'ensemble de la province pour élire les députés.
La situation est certes malheureuse, mais le problème avait déjà été évoqué par la CENI et l'ensemble des candidats aux élections législatives et présidentielles. Jacques Balima, observateur politique.
Ce problème avait été posé au niveau de la CENI avec les différents candidats, les acteurs politiques. Et je pense bien qu'une solution avait été trouvée, c'était de faire avec les communes qui pouvaient abriter effectivement ces élections.
Effectivement, cela ne pose aucun problème, puisque sur le plan juridique, une solution a d'ailleurs été trouvée. Diaka Koulibaly, analyste politique.
Il y a eu une réforme du code électoral qui a permis de prendre en compte le fait que certaines communes ne pourront pas voter. Et cette modification du code électoral a été validée par le Conseil constitutionnel, ce qui la rend conforme à la Constitution elle-même. Donc d'un point de vue juridique, il n'y a vraiment pas de difficulté à ce qu'on puisse organiser les élections sans certaines communes, qui d'ailleurs, selon les services de l'administration territoriale, ne comptent plus d'habitants.
Ces populations sont désormais considérées comme des déplacés internes et une session d'enrôlement a même été organisée à leur effet. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les autorités camerounaises ont déployé des troupes dans la capitale Yaoundé pour arrêter des hommes armés qui, selon elles, tentent de déstabiliser le gouvernement. Plusieurs bombes ont explosé à Yaoundé au cours des 2 derniers mois, blessant au moins 22 personnes. Un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Claire Morin-Gibour.
Lors d'une réunion qui s'est tenue lundi dans la capitale camerounaise, les 10 gouverneurs des régions du pays ont convenu qu'il fallait s'attaquer à l'augmentation des attentats à la bombe. Nasseri Paul Béa est gouverneur de la région du centre, qui comprend Yaoundé. Il dit que depuis un an, aucune semaine ne se passe sans arrestation pour possession illégale d'armes ou placement de bombes dans un lieu public.
Nous avons pensé au bouclage dans certains endroits criminogènes. Nous avons aussi les opérations coup de poing par la gendarmerie ou par la police. Nous avons pensé à insister sur le filtrage dans les enceintes des sorties de la ville de Yaoundé. Nous avons pris les dispositions pour interdire les ports de sacs ou de colis suspects dans les bars, les supermarchés et autres.
Le gouverneur Béa n'a pas dit combien de soldats ont été déployés à Yaoundé. Mais les habitants ont noté une augmentation des points de contrôle. Le Cameroun fait face à un conflit séparatiste dans les régions anglophones et des militants de Boko Haram sont actifs dans l'extrême nord du pays. Cependant, les gouverneurs n'ont blâmé aucun groupe spécifique pour ces attaques à la bombe. En revanche, le président de la Chambre basse du Parlement, Kavaye Yegi Djibril, pointe du doigt l'opposition politique.
Je voudrais le rappeler. Marcher pour prendre le pouvoir n'est ni légal, ni démocratique.
L'opposition nie tout rôle dans ces attentats à la bombe et a demandé au gouvernement de mener des enquêtes. Cependant, le chef du parti socialiste démocrate camerounais, le prince Ekosso, a déclaré que ceux qui en ont assez du président Paul Biya au pouvoir depuis 1982 pourraient prendre les armes.
Depuis 38 ans, ce régime se concentre pour détruire les voix dissidentes dans ce pays. Le régime se concentre sur l'étouffement des idées d'opposition, créant des situations qui ne cessent de vexer le peuple camerounais.
Pour le moment, le gouvernement camerounais n'a accusé aucun groupe présumé d'être derrière les personnes arrêtées avec des armes ou du matériel pour fabriquer des bombes. Selon Léonard Ejani Koulou, analyste politique à l'université de Tchang, les responsables font attention à ne pas blâmer l'opposition du MRC ou les séparatistes anglophones qui se disent ambazoniens.
Just imagine a situation whereby this allegation is made against, let's say, the MRC party.
Imaginez une situation où cette allégation est faite contre le parti MRC. Quelle en sera la répercussion? Imaginez simplement que cette affirmation soit faite contre les combattants séparatistes. Cela voudrait dire qu'ils ont réussi à pénétrer Yaoundé et cela peut créer une sorte de stigmatisation chez les francophones et anglophones.
L'ancien porte-parole militaire et spécialiste en sécurité, Didier Badjek, sur la télévision nationale, a déclaré que, quel que soit le responsable, le gouvernement devrait négocier une issue pacifique.
Le péril a un niveau élevé parce que là, on commence à défier des forces de défense et de sécurité qui sont supposées être massives dans des agglomérations qui sont importantes telles que Yaoundé. Parce que comme vous voyez sur le terrain, ce sont des effets tactiques, ce sont des effets opératifs sur le terrain. Mais il faudrait essayer d'abord de comprendre derrière quelle est la motivation idéologique, politique qui peut habiter ce genre de personnes. Un traitement militaire n'a jamais été une porte de sortie.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ouganda, alors que la campagne bat son plein en vue des élections de janvier, les candidats peinent à suivre les directives pour contenir la propagation de la pandémie de coronavirus. Voici un reportage de Halima Atoumani à Kampala. Le récit est de Michel Joseph.
Que la campagne pour les élections générales du 14 janvier en Ouganda s'accélère, il est souvent difficile de dire qu'il y a une pandémie en cours. Beaucoup d'Ougandais ignorent simplement les appels à la distanciation sociale ou au port des masques lors des meetings. Les responsables électoraux exhortent les 11 candidats à la présidence à prendre les devants et encourager les populations à aider à contrôler le virus. Paul Bukenya est le porte-parole de la commission électorale.
Your first statement would be to the people.
Votre premier message devrait être, veuillez mettre vos masques. Si vous ne mettez pas vos masques, je ne vous parlerai pas. S'il vous plaît, distanciation sociale. Pouvez-vous respecter la distanciation sociale? Mettez la distance qui est recommandée.
L'Ouganda a recensé plus de 16 000 infections au Covid-19 et au moins 150 décès. Lors d'un événement de campagne dans le nord du pays, le président Yoweri Museveni a déclaré que tous les candidats devraient organiser des rassemblements avec distanciation sociale, même si ses propres meetings attirent plus de foule.
Donc, cette faillite a rassemblé les gens dans une période aussi dangereuse et criminelle. Et nous allons traiter avec les auteurs.
Mais il semble que la sécurité vise plutôt l'opposition. La police a dispersé violemment les foules soutenant les partis d'opposition, alors que les manifestations du parti au pouvoir se déroulent sans incident. Le parti de la plateforme nationale d'unité, dirigé par Robert Kyagulanyi, mieux connu sous le nom de Bobby Wine, et le Forum pour le changement démocratique, ont été cités comme des partis rebelles. Avec des masses de jeunes, des villes excitées de voir leur idole Bobby Wine, des chansons comme celle-ci sont courantes. Wine a été arrêté à Jinja, dans l'est du pays, au premier jour de sa campagne, pour avoir, selon la police, violé les mesures de lutte contre le coronavirus. Joe Sagnoni, le porte-parole de la plateforme de Bobby Wine, estime qu'il est difficile pour le parti de s'assurer que tous ses partisans pratiquent la distanciation sociale et portent des masques.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on.
Ces gens qui nous attendent en bordure de route et ainsi de suite, que faites-vous d'eux? Ce sont des Ougandais qui ont soif de changement. Quand ils se tiennent en bordure de route et agitent les mains et tout cela, ils ne commettent pas des crimes non plus.
Hier, la police a affronté pendant plusieurs heures à Kampala de jeunes manifestants en colère suite à l'arrestation de Bobby Wine. Selon le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, il y a eu 7 morts et 45 blessés. Dans un communiqué lundi, le parti au pouvoir a déclaré avoir ordonné à la police de disperser toutes les processions organisées par ses membres à travers le pays. Les candidats sont autorisés à faire campagne jusqu'au 12 janvier, deux jours avant les élections.
Lors d'un événement virtuel mercredi avec des agents de santé, le président élu Joe Biden a averti que son équipe allait être en retard de semaines, voire de mois, dans la planification de la lutte contre la pandémie si l'administration Trump ne cesse de bloquer le processus de transition. Voici un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison Blanche. Le récit et de Chérubin d'Orcil.
Alors que les États-Unis dépassent la barre des 11 millions de cas de COVID-19, le président élu Joe Biden a critiqué le président Donald Trump qui refuse d'admettre sa défaite, privant ainsi Biden d'une transition en douceur qui comprendrait le partage d'informations sur la pandémie. Voici ce que M. Biden a déclaré hier.
Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas à notre disposition et à moins que ce ne soit bientôt disponible, nous allons être en retard de plusieurs semaines, voire des mois pour pouvoir mettre sur pied toute initiative relative à la plus grande promesse avec l'arrivée de deux sociétés pharmaceutiques proposant des vaccins d'une efficacité de 95%.
Joe Biden a écouté les témoignages d'agents de santé en première ligne de la bataille contre la pandémie. Mary Turner, de l'Association des infirmières du Minnesota.
Je suis désolée.
Non.
Je suis si émotive.
Biden répond.
C'est vous qui m'avez ému.
Plus tôt dans la semaine, il avait déjà averti que davantage d'Américains pourraient mourir du coronavirus si la transition est encore retardée. De son côté, l'administration Trump vante les réalisations dans le domaine des vaccins. Les sociétés pharmaceutiques américaines Moderna et Pfizer ont annoncé les premiers résultats de leurs essais cliniques montrant que leur vaccin était efficace à près de 95%. Alex Azar, secrétaire américain à la santé.
D'ici la fin décembre, nous devrions avoir environ 40 millions de doses de ces deux vaccins disponibles en attendant l'autorisation de la FDA pour vacciner environ 20 millions des Américains les plus vulnérables.
Malgré ces nouvelles encourageantes sur les vaccins, Joe Biden fera face à une bataille encore plus difficile après son investiture en janvier. selon Catherine Baker de l'école de politique publique Harris de l'université de Chicago.
Je pense que l'administration qui vient va faire face à de nombreux défis en termes d'amener les gens à coopérer avec les meilleures pratiques de santé publique, alors que tout le monde se concentre sur les nouvelles passionnantes d'un nouveau vaccin. Dans le meilleur des cas, il faudra des mois et des mois avant qu'un vaccin ne soit fabriqué, distribué et administré à une masse critique de la population.
La campagne Trump continue ses batailles judiciaires dans plusieurs États, y compris la dernière demande de recomptage partiel dans l'État du Wisconsin, où Joe Biden est annoncé vainqueur.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.